Transistor.
Un instant, il y aura l'hélium de l'actu.
Transistor. Web.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, il est 20h sur Transistor, nous sommes le jeudi 9 avril et à vos côtés ce soir, vous retrouvez la petite équipe du journal radiophonique Amplifié. On continue à décrypter l'actualité pendant le confinement avec au programme de ce soir un point sur les gestions de la pandémie en France et dans le monde, un petit tour par la Hongrie, des albums qui continuent de sortir et des médias à analyser. Bref, comme d'habitude, c'est l'heure de l'actu mixée, égalisée, montée et bien sûr autant dématérialisée qu'amplifiée. Et on commence tout de suite avec le national. C'est confirmé, le confinement durera bien au-delà du 15 avril. Lundi soir, le président annoncera des nouvelles mesures qu'il prévoit pour continuer de lutter contre l'épidémie. Le bilan est estimé à environ 11 000 morts provoquées par le Covid-19 pour le moment, mais il ne prend pas en compte plusieurs établissements sociaux et médico-sociaux pour des soi-disant raisons de problèmes techniques. Plus de 30 000 personnes sont actuellement hospitalisées et dans l'incertitude totale qui règne, les professeurs ont été informés que les cours ne reprendraient pas avant le 4 mai, voire plus tard. L'université de Nanterre, elle, a donc fait le choix d'annoncer la fermeture jusqu'à septembre et a choisi de réaliser ses partiels en ligne. À Paris, Anne Hidalgo propose dans un courrier à Édouard Philippe un plan de sortie de confinement pour la ville qui reposerait sur un dépistage massif et une mise en quarantaine des personnes infectées. Côté économie, la France est entrée en récession avec une baisse de l'activité, bien plus forte qu'en 2008. Le point positif du jour, cependant, ont été lancés des essais de transfusion de plasma qui permettraient aux malades de recevoir des anticorps développés par les personnes guéries du Covid. Résultat attendu dans 3 semaines. Pourtant, on peut se demander où sont passés les masques dont la France disposait lors de la grippe H1N1 en 2019. Voilà la question que se posent les journaux du jour. Le mystère a été résolu, le gouvernement a préféré une logique de flux tendu à une logique de stock forcément moins rentable. Roselyne Bachelot, alors ministre de la Santé, avait commandé des masques en grande quantité et avait été accusée de gaspiller l'argent public. Aujourd'hui, la France a mis en place un pont aérien avec la Chine qui lui permet de recevoir des masques régulièrement quand ils ne sont pas drobés par les Américains. Le manque de moyens, donc, des hôpitaux comme ailleurs, reste criant, alors que de nombreux pays ont déjà imposé le port du masque à la population et que l'achat du masque est devenu une guerre géopolitique mondiale. Et tout de suite, on parle également de violences policières en ces temps de confinement avec toi, Rémi.
Oui, et s'il y a bien une tradition française, Mathilde, qui ne s'interrompt pas avec la crise sanitaire, c'est évidemment celle des violences policières. Avec près de 480 000 verbalisations pour 8,2 millions de contrôles revendiqués par le ministère de l'Intérieur, il faut dire que les occasions n'ont pas manqué. Et ce sont par exemple les images terribles de ce livreur traîné sous un Porsche par des agents, puis passé à tabac aux Ulis le 27 mars. Le jeune homme sera poursuivi pour outrage et placé en garde à vue. Ce sont également ces SDF arrêtés pour ne pas être chez eux, tout simplement, et entassés à plusieurs dans des cellules de prison en pleine crise sanitaire. Ce sont de façon plus tristement banale les policiers qui s'improvisent experts médicaux et se permettent de verbaliser une femme enceinte sortie à un stade trop avancé de sa grossesse, qui s'improvisent parfois même législateurs, comme lorsqu'ils décident qu'ils ne seraient plus autorisés de sortir pour acheter futilement des gâteaux. Enfin, c'est la prononciation délirante de peine de prison pour récidive quand on sait la conséquence que ça peut avoir en cette période de confinement et d'épidémie. Bref, la logique policière préside toujours la politique de l'État, au moins un repère auquel se rattacher.
Et des violences, il en est encore question en cette période de pandémie, puisque les associations féministes avait prévenu dès le début du confinement que celui-ci allait être un danger pour les femmes subissant des violences domestiques au sein de leur foyer. Et aujourd'hui, les chiffres sont là. Partout dans le monde, une hausse des appels et des signalements, plus 25% au Royaume-Uni, 16% en Espagne, 50% au Brésil et même 60% au Mexique. En France, les interventions des forces de l'ordre à la suite de signalements ont augmenté de plus de 30% rien que pour la première semaine de la quarantaine. Le collectif Nous Toutes rappelle dans un slogan adapté au confinement, il est déconseillé de sortir, mais il n'est pas interdit de fuir. L'association rediffuse le numéro pour appeler à l'aide, c'est le 3919. Enregistrement de nouveaux féminicides, de violences physiques et psychiques, et aussi de harcèlement sexiste sur les réseaux sociaux. Dans un article du Monde du 7 avril, on trouve des témoignages sidérants d'adolescentes visées par des campagnes de comptes Ficha qui pratiquent le harcèlement sexuel massif, fonctionnant parfois par ville ou par département. Les diffusions de nudes, le revenge porn et les humiliations se sont multipliées depuis le début du confinement, comme le relève l'association e-enfance qui gère une plateforme anonyme et gratuite d'aide aux victimes de harcèlement appelée NetEcoute. Et tout de suite, on passe à l'international, avec Andrella qui va nous parler du Chili.
Au Chili, en période de crise sanitaire, le président Sébastien Piñera met de l'huile sur le feu. Le manquement complètement de la quarantaine totale imposée à Santiago et de la quarantaine partielle nationale. Piñera en fait un tour à Place de la Dignidad. On croit cet acte est-il si choquant parce que la Place Dignidad, c'est le emblème de la révolution sociale et le point de départ des manifestations à Santiago. En plus, cette place géographiquement divise la capitale en deux parties. Au nord, les quartiers riches, au sud, les quartiers pauvres. Et c'est pour cela que prendre à photo en lieu où sont encore écrits des slogans comme « Piñera doit renoncer »,« Renoncer à Piñera », c'est tout aussi ironique et insultant.
Et tout de suite, on part au Yémen avec Martin.
Le coronavirus peut-il mettre fin à la guerre au Yémen, se demandent les journaux du jour. S'il est trop tôt pour le dire, ce qui est certain, c'est que l'Arabie Saoudite a conclu aujourd'hui un cessez-le-feu de 15 jours, qui signifierait que les actions menées par la coalition dirigée par les Saoudiens contre les rebelles Houthis pourraient prendre fin. Une décision qui intervient après une significative intensification des combats la semaine dernière, semaine durant laquelle les deux camps se sont livrés à des échanges de tirs meurtriers. Si l'ONU salue l'initiative, elle reste pour l'instant unilatérale, et c'est aux rebelles Houthis de l'approuver. Quoi qu'il en soit, la nouvelle est bienvenue pour un pays qui fait déjà face depuis 6 ans à une situation humanitaire catastrophique.
Merci Marie et Martin. Nicolas, toi, tu nous parles de la situation aux États-Unis.
Et oui, en effet, les États-Unis ont enregistré hier et pour la deuxième journée consécutive près de 2000 morts, 1973 exactement, liés au nouveau coronavirus selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Il s'agit une fois de plus du pire bilan quotidien depuis le début de la pandémie. En nombre de cas, les États-Unis restent le pays le plus touché, avec plus de 400 000 contaminations, avec 14 695 morts au total. La première puissance mondiale dépasse désormais l'Espagne, mais reste moins touchée en termes de morts jusqu'ici que l'Italie. Au cœur du cyclone, l'État de New York a enregistré un nouveau record de décès, 779 morts en 24 heures, mais, je cite le gouverneur ici, Andrew Cuomo, nous sommes en train d'aplatir la courbe. Un optimisme partagé par le président Trump qui a affirmé avoir bon espoir de voir la, je cite, lumière au bout du tunnel. Nous avons étudié avec attention les chiffres de l'Italie et de l'Espagne. Nous en sortons souvent mieux que plusieurs autres pays, a avancé à ses côtés le docteur Deborah Birx, membre de la cellule de crise de la Maison-Blanche sur le virus. Le système de santé américain est assez extraordinaire. Pour une fois qu'on est d'accord avec eux, sémantiquement, il est en effet extraordinaire ce système, mais extraordinairement inapte à soigner les plus pauvres, les plus isolés et les minorités.
Et Martin, toi tu nous parles du rapport Oxfam.
Oui, rapidement et pour rappel, Oxfam est une ONG dont l'objectif est de lutter contre la pauvreté et les inégalités dans le monde. Oxfam, donc, a annoncé qu'environ 500 000 personnes, un demi-milliard, entre 6 et 8% de la population mondiale pourrait basculer sous le seuil de pauvreté suite au coronavirus et sans plan majeur de soutien. Dans ce rapport, Dignity Not Destitution, publié aujourd'hui même, Oxfam souligne que bien évidemment, tous les pays ne seraient pas touchés de la même manière. Je cite, « Pour les personnes des pays pauvres qui luttent déjà pour survivre, il n'y a presque pas de filet de sécurité pour les empêcher de sombrer dans la pauvreté. De la même manière, les femmes, plus nombreuses dans les emplois précaires, seront sans aucun doute plus touchées par cette crise que les hommes. » L'Oxfam appelle donc au G20, au FMI, à la Banque mondiale, à qui elle demande notamment d'annuler toutes les dettes des pays en développement pour 2020 et de lancer des programmes de soutien ambitieux.
Et Marie nous a écrit un petit point sur la situation en Iran que tu vas nous lire également.
Oui, on part maintenant en Iran, où le président Rouhani a pris une décision qui fait bondir les professionnels de santé, comme la majorité de la population. Mettre fin au confinement pour éviter l'effondrement économique. Je cite le président, « La lutte se fait désormais en reprenant les activités économiques. Nous n'avons pas d'autre voie. Dès samedi, 2/3 des activités dites à faible risque seront relancées. Une annonce qui fait des sceptiques dans un pays dont les habitants dénoncent l'impréparation et les mensonges du gouvernement. L'Iran avait demandé un prêt au FMI dès le début de la crise et pâtit aujourd'hui des sanctions américaines, mais reste le principal foyer de la pandémie au Proche-Orient et continue de fournir des chiffres sous-estimés. L'épidémie, comme ailleurs, a engendré une crise autant sanitaire que politique et économique, que seule une refonte du système iranien semble pouvoir résorber.
Et on revient un petit peu aux États-Unis avec toi, Nicolas.
Bernie Sanders a dû renoncer mercredi à la course à la Maison-Blanche, non sans avoir profondément influencé la gauche américaine. À l'âge de 78 ans, le sénateur du Vermont a jeté l'éponge après avoir été largement distancé par Joe Biden lors des dernières primaires disputées avant le début de la campagne. L'ex-vice-président de Barack Obama est donc désormais assuré d'affronter Donald Trump le 3 novembre prochain. Pour revenir sur le combat des primaires du Parti démocrate, il faut revoir les genres de divisions qui avaient mené à la nomination de Joe Biden. Les autres candidats sérieux, Amy Klobuchar et Pete Buttigieg, avaient donné leur soutien à l'ex-vice-président de Barack Obama, tandis qu'Elizabeth Warren, l'autre candidate sur l'aile gauche du Parti démocrate, n'avait pas donné son soutien à Bernie Sanders. Pour finir, de nombreuses personnalités de la vie intellectuelle et politique de gauche radicale en Amérique ont congratulé Sanders pour son parcours à contre-courant des institutions, pourtant très bien ficelé du Parti démocrate.
Et pour finir, on va parler un peu et toujours de politique, et tu nous emmènes en Pologne, Martin.
Oui, maintenir les élections municipales en pleine flambée de coronavirus, tout le monde en convient, ou presque maintenant, était une décision éminemment irresponsable en France. Pourtant, il semble que certains n'aient pas encore retenu la leçon. Je vous parle ici de la Pologne, dirigée depuis 2015 par le président Andrzej Duda, membre du parti Droit et Justice, le PiS, mouvement ultra-conservateur et eurosceptique. Sous la direction de Jarosław Kaczyński, ce gouvernement compte donc, pour le moment et d'après leurs annonces, maintenir les élections présidentielles qui auront donc lieu au cours du mois de mai, en plein pic de l'épidémie. Selon les derniers chiffres, la Pologne compte à ce jour environ 5200 cas recensés du virus et déplore déjà 160 morts. Et c'est dans ce contexte que le PiS a voté dans la nuit de lundi à mardi dernier une modification du code électoral qui généralise le vote par voie postale, permettant ainsi le maintien des élections présidentielles. Le fait que cette modification du code électoral soit contraire aux normes du Conseil de l'Europe ne semble pas gêner les responsables du parti qui entretenaient de toute façon un certain nombre de griefs à l'égard de l'organisation supra-étatique. Au-delà de ces considérations légales et des risques sanitaires évidents que le gouvernement fait ainsi courir à sa population, le PiS s'octroie donc ainsi le privilège d'une campagne électorale où seul le président sortant est en mesure de parcourir le pays. Pratique.
Merci beaucoup Martin, c'est fini pour le journal, il est 20h15 et il est l'heure de passer au billet d'ailleurs. Nicolas va nous emmener en Hongrie pour parler un peu plus précisément de la situation.
Et le mouvement Nuit Debout se poursuit. s'est même étendu ces derniers jours en région. Tous les sujets seront abordés. Il sera mon invité en direct.
L'Assemblée a voté pour les dispositions de la proposition à une majorité de 137 voix pour, 53 contre et aucune abstention. Scène lunaire en Hongrie ce lundi 30 mars, dans un pays qui compte moins de 70 morts du coronavirus à l'heure où je vous parle et environ un millier de cas de personnes infectées. Le Congrès hongrois a en effet donné au gouvernement de Viktor Orban le droit de légiférer par décret dans tous les domaines législatifs. Et l'on pourrait ici se dire que le coronavirus appelle effectivement des mesures exceptionnelles qui passent des fois par des restrictions de liberté, comme on peut le voir ici en France à travers le confinement. Néanmoins, il faut être précis dans notre description des modalités d'application de ces mesures. En France, l'état d'urgence sanitaire voté il y a 2 semaines par le Parlement n'est valable que 2 mois. Au Royaume-Uni, les pouvoirs exceptionnels accordés au gouvernement ont une durée maximale de 2 ans, mais doivent être renouvelés par la Chambre des communes chaque 6 mois. Mais le cas de la Hongrie est bien particulier, comme l'explique Maté Szabó, directeur de l'Union hongroise des libertés civiles. Avec cette loi, le gouvernement obtient toute liberté décisionnelle, ce qui retire la garantie constitutionnelle du contrôle parlementaire, et c'est le plus gros problème dans tout ça. Alors en effet, Viktor Orban s'est donc fait attribuer les pleins pouvoirs par le Parlement qu'il contrôle, mais sans limite dans le temps. Il va donc pouvoir gouverner par décret aussi longtemps qu'il le souhaite, et il pourra même abroger des lois votées par le Parlement, et sera donc le seul garant du moment où ses pouvoirs ne seront plus nécessaires. Même si pour les porte-parole, il s'agit de dispositions, je cite, « à tout moment révocables ». On se demande comment un Parlement absent pourrait agir en tant que contre-pouvoir valable. Orban, qui joue les chefs de guerre dans des vidéos très très soignées sur Facebook, défie le danger sanitaire en récupérant sans protection des masques et des respirateurs provenant de Chine à l'aéroport international Franz Liszt, ou alors il enchaîne les rendez-vous intégralement à découvert avec une bande-son testostéronée digne d'une production Michael Bay. Le Premier ministre n'hésite donc pas à mettre en avant son image alors qu'il met en place l'un des confinements qui sont en fait les plus légers du continent en autorisant par exemple ses concitoyens et concitoyennes à aller chez le coiffeur ou alors à participer à des activités religieuses. L'objectif d'Orban n'est pas en fait de diriger par décret mais de préserver sa base électorale, explique le politologue Gábor Töröck. Après la fin de cette pandémie, le pays se retrouvera dans une situation très difficile et l'exécutif avec. Celui-ci doit capitaliser donc un maximum tant que le problème et ses conséquences ne sont pas encore trop graves. D'ailleurs, ajoute-t-il, je ne serais pas étonné de voir le gouvernement se dire qu'il ne tiendra pas jusqu'aux législatives de 2022 en essayant d'entretenir sa popularité et organiser ainsi des élections anticipées en cas de sortie de crise plutôt positive, prédit-il. Une position donc délicate pour l'opposition au gouvernement, dont Bernadette Seel, député du parti Lehet Másha Politika et dont les positions s'apparentent à l'aile centriste d'Europe Écologie des Verts, témoigne.
Un député de l'opposition qui est responsable de son mandat ne votera jamais pour l'autodestruction du Parlement. De ce point de vue, il s'agit d'une situation très irresponsable, car elle met l'accent sur l'escalade des tensions entre le gouvernement et l'opposition, au lieu de se concentrer sur la lutte contre l'épidémie mondiale.
Rappelons quand même qu'au moment où la maladie a commencé à se propager en Europe, Orban invoqua la Covid-19 pour suspendre indéfiniment les demandes d'asile en accusant les migrants et les migrantes de propager la maladie avant d'interdire l'accès du territoire à une très large majorité de personnes étrangères en vertu d'un arrêté entré en application le 16 mars. Et puis, dès le lendemain de sa prise des pleins pouvoirs, une multitude de questions non liées au coronavirus ont été traitées par décret exécutif. Parmi elles, il y en a notamment une qui vise à mettre fin à la reconnaissance légale du genre pour les personnes trans. Niant la distinction entre le sexe et le genre, le projet de loi cherche à redéfinir le genre comme étant, je cite, « le sexe biologique basé sur les caractéristiques sexuelles primaires et les chromosomes ». Concrètement, cela signifie que sur le registre civil hongrois devrait figurer seulement la mention du sexe à la naissance, ce qui rendrait totalement impossible tout changement de la mention du genre pour les personnes trans. Des éléments qui sont à considérer comme un tout, et en prenant compte des passifs du gouvernement, selon le directeur d'Amnesty International en Hongrie.
On ne parle pas ici d'une peur abstraite, on parle en fait par expérience après 15 ans où on a eu le temps d'observer la manière dont le régime de Viktor Orban a pu saper les droits de l'homme et restreindre l'état de droit en Hongrie. On parle donc par expérience quand on exprime nos inquiétudes au sujet d'un gouvernement qui utiliserait la crise du coronavirus comme levier constitutionnel afin de rester au pouvoir. Pour finir cette chronique, je vous propose un geste symbolique, celui de se réapproprier la citation de Marine Le Pen, qui affirmait il y a quelques semaines que l'UE serait le premier mort de l'épidémie, mais en se focalisant plutôt sur la gestion désastreuse des foyers de la crise. Aucun moyen envoyé à temps à l'Italie, à l'Espagne, en somme aux nations les plus pauvres, aux nations qui vont à l'encontre des politiques européennes de croissance avant tout. Sans oublier que les institutions européennes, c'est celles qui font collusion en premier avec les régimes qu'elles décrivent pourtant comme des régimes liberticides dans les médias. N'oublions pas qu'Orban et la présidente de la Commission européenne font partie de la même famille politique.
Journal radiophonique amplifié de Transistor, en direct avec vous jusqu'à 21h. Attention à vos oreilles.
Merci Nicolas pour ce billet d'ailleurs très complet sur la situation en Hongrie et même avec ce petit élargissement sur l'Europe. Il est 20h21 et il est l'heure de passer à la revue de presse que nous a concoctée Marie.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Et on la commence avec du confinement, bien sûr. Marie écrit. Nous sommes en guerre et confinés, mais il y a des choses que l'on peut ouvrir, outre les boîtes de pois chiches qui s'entassent dans les placards. Ouvrir les fenêtres pour applaudir, ouvrir des fenêtres sur son ordinateur et les yeux pour prendre conscience de ce que le virus révèle, ouvrir des journaux et des possibles. Alors ouvrons déjà cette revue de presse par un tour d'horizon des vies confinées, quelques reportages dans le quotidien des quelques 3 milliards d'individus contraints à rester chez eux. Dans Courrier International, on nous emmène en Ouganda. Là-bas, on dort à 10 dans une case et la promiscuité est une réalité quotidienne. Pour certains en tout cas, car les personnes haut placées, elles, se font dispenser de quarantaine en échange de pots de vin. La journaliste rappelle aussi que 68 millions d'euros sont consacrés aux dépenses de santé des membres du gouvernement, alors que le pays dispose de seulement 55 lits en soins intensifs pour ses 42 millions d'habitants. Les Ougandais, dont 21% vivent sous le seuil de pauvreté, ne sont pas dupes, et dans les rues circule une nouvelle expression « Omwau kakufa, le pauvre meurt ». Même problème dans les townships d'Afrique du Sud. On parle d'une maladie de blanc, et l'on fait peu de cas d'un confinement de toute façon impossible à respecter, dans des lieux où les toilettes sont partagées, les habitations des taudis et l'eau courante un luxe. Une constatation qui fait réagir Gérard Wolf, qui défend, dans le monde, un programme mondial d'amélioration des quartiers informels qui abrite 2,3 milliards de personnes. Il prône, je cite, « des villes sociétalement équilibrées, avec un accès égal aux services reposant sur le local et le solidaire. »
Et en parlant d'inégalité, il semble qu'en Russie, ce soit plutôt les riches qui pâtissent du virus.
Oui, un journal moscovite titre même, je cite, « Le coronavirus serait plus efficace que les pavés entre les mains des prolétaires. » Tout simplement parce qu'avec la crise, Poutine a enfin taxé les dividendes offshore et augmenté la taxe sur les impôts bancaires, intouchables depuis des années.
Le virus serait donc une occasion de changer, alors?
Oui, et pas seulement en Russie. Pour l'autrice indienne Arundhati Roy, le virus a mis les puissants à genoux et le monde à l'arrêt, et constitue, je cite, « un portrait entre le monde d'hier et le prochain ». Une occasion de repenser la machine que nous avons construite pour nous-mêmes. En bref, le virus a forcé le moteur du capitalisme à un arrêt brutal. Nous avons deux choix, travailler à sa réparation ou en chercher un meilleur.
Et le virus ouvre donc des possibles.
Oui, mais il ouvre aussi la porte à des décisions étranges. Ainsi, si vous habitez Sanary-sur-Mer, sachez que vous écoperez d'une amende si vous sortez d'une boulangerie avec une seule baguette. Et si vous êtes un peu fatigué et que vous vous asseyez sur un banc à Biarritz, attention aussi, car je cite, « la station assise de plus de 2 minutes est interdite ». Vous me direz, c'est pas si terrible, puisqu'à Béziers, on démonte carrément les bons publics. Bref, des décisions municipales plutôt inventives, on peut le dire.
Et à propos d'inventivité, je crois que le confinement a pour mérite de révéler la créativité de certains, non ?
Oui, parfois pour le pire, mais souvent pour le meilleur. Ainsi, sur Instagram, trois jeunes néerlandaises ont lancé un défi aux internautes. Reproduire des tableaux célèbres avec les moyens du bord. Ça a donné le Napoléon de David avec un berger allemand et un drap rouge, un étendoir pour faire une harpe ou la perruque de Louis XVI avec des rouleaux de papier toilette.
Mais on peut aussi innover utile.
Oui, les Italiens ont réussi à raccorder les masques de snorkeling, sorte de plongée, de décathlon, au respirateur grâce à une valve spéciale. D'ailleurs, et sans transition, sachez que si vous êtes confiné avec des enfants, des solutions sont possibles. Rassurez-vous, la plupart d'entre eux s'occupent très bien tout seuls. Émile, 9 ans, dessine une corona maison interdite aux pangolins. Lucie, 3 ans, imite le président des microbes qui fait peur quand il parle de guerre. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez lire à vos enfants des articles linguistiques du Courrier international pour les cultiver un peu. Vous apprendrez ainsi que le mot « quarantaine » désignait la durée pendant laquelle une veuve pouvait occuper le logement de son époux avant qu'il ne soit saisi, et que les Italiens ont inventé le « quarantini », un cocktail spécial quarantaine.
Tu nous proposes de faire l'école à la maison, en fait.
Non, pas du tout. Je sais que vous n'y arriverez pas. Comment voulez-vous répondre aux questions du type « Pourquoi le président mexicain pense qu'une amulette peut le protéger du virus ?» Ou « Pourquoi est-ce que les méchants américains nous volent les masques ?» Ou « Pourquoi le roi de la Thaïlande se confine en Bavière avec 20 jeunes filles ?»
En revanche, la presse du jour propose des réponses ?
À ces questions, non. À la crise, oui. Harari prend la coopération comme antidote. Thomas Piketty de taxer les riches pour lutter contre les... Ailleurs, on analyse. Spiegler parle d'une crise qui reflète, je cite, « la vision néolibérale de la santé publique ». Et dans l'Obs, Naomi Klein mentionne un capitalisme de la catastrophe qui profite du désastre. Un peu comme en Israël, par exemple, où Netanyahou a suspendu les droits civiques fondamentaux, fermé les tribunaux, rappelons qu'il devait y être jugé pour corruption, et approuvé le recours aux techniques antiterroristes pour traquer la population.
Et pour finir, qu'est-ce que tu nous proposes d'ouvrir ?
Moi, je vous propose d'ouvrir votre fenêtre et l'édition du jour du Monde qui publie en intégralité son journal de crise des blouses blanches. Les mots de ceux qui sont au front disent leur angoisse et leurs pensées et donnent raison à Camus qui écrivait « Ce que l'on apprend au milieu des fléaux, c'est qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. »
Jusqu'à 21h, toute l'actualité mixée, égalisée, montée, enregistrée, captée, compressée,
diffusée,
mixée, égalisée, montée, enregistrée.
Et il est 20h28 sur Transistor. Merci Marie.
Un entraîneur,
ça doit être entraînant.
Oui, mais là, ça pique.
Respectez ! Pas faire de faute ! Pas faire de faute !
Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud !
C'est vrai que l'année dernière, on avait un virus. L'année dernière, on n'avait pas d'opium, hein, je te rappelle.
Ah, quel scandale, cet arbitrage, c'est invraisemblable.
Et on va tout de suite attaquer par une note positive pour rendre hommage à tous les sportifs qui, à leur façon, donnent de leur temps et de leur énergie pour soutenir la lutte contre la pandémie. Gaël Hermet, capitaine de l'équipe de France de rugby et ergothérapeute en EHPAD, et ses coéquipières Agathe Socha, Camille Boudot et Emeline, toutes trois infirmières. Bakay Meïté, joueur de Carcassonne et agent d'entretien volontaire dans un hôpital. Ou encore Maxime Mbanda, international italien devenu ambulancier volontaire. Loin des scandales médiatiques de footballeurs qui refusent de baisser de moitié leur salaire, sachant que je vous rappelle que le salaire de Neymar, par exemple, pourrait suffire à payer le travail de 1250 chercheurs chaque année sur les bases de ce que l'État daigne accorder au monde de la recherche.
Et en parlant de chercheurs, il paraît qu'il y a de même des sportifs chercheurs.
Et oui, tout à fait, et un en particulier, Clément Jacquelin. Alors, je vous ai déjà parlé de son petit frère, Émilien, champion du monde de biathlon, mais aujourd'hui, c'est bien Clément qui fait les gros titres. En effet, cet ingénieur a décidé d'utiliser l'ensemble des imprimantes 3D qu'il possède dans son entreprise pour produire des masques de protection qu'il distribue à l'ensemble de l'agglomération grenobloise. Réutilisables et particulièrement efficaces, ces masques ont été salués par le personnel soignant. Grâce à une cagnotte en ligne, Clément Jacquelin est déjà parvenu à distribuer plusieurs centaines de masques et prévoit d'en produire plusieurs centaines par jour, en incitant d'autres entreprises à imprimer ses modèles. De nombreux athlètes mettent également en place des ventes aux enchères de tenues ou tossards qu'ils ont portés pendant leurs exploits, puis donnent les recettes de ces ventes aux hôpitaux et aux centres de recherche. Si vous voulez aider de votre côté, vous pouvez toujours essayer avec le t-shirt Décathlon avec lequel vous avez vaillamment terminé le cross du collège en quatrième.
Ouais, je sais pas si ça marcherait du tonnerre. Mais puisque le temps commence à devenir long, est-ce que tu n'aurais pas une petite activité pour s'occuper pendant les prochaines semaines ?
Alors oui, je sais. Vous avez tous terminé 3 fois l'ensemble des séances devant vous faire atteindre les 14 minutes de gainage. Vous pouvez effectuer 127 pompes sans effort. Et pendant l'heure de jogging réglementaire, vous parvenez à courir 25 km, ce qui inquiète votre voisin et votre chien qui n'arrive plus à vous suivre. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il faut pour vous. Puisque vous trouvez le temps long, nous allons réinventer un exercice très simple qui va changer votre perception du temps, l'un de trois soleils ralentis. Alors le principe est relativement basique, il s'agit toujours de rallier un point tandis que quelqu'un compte en étant retourné. Toutefois, il s'agira là de courir au ralenti. Mais pourquoi au ralenti, me direz-vous ? Eh bien, parce que si vous courez vite, tout d'abord vous rentrerez soit dans un tabouret, soit dans un mur, soit dans le chien qui dort épuisé par votre footing, ne l'oubliez pas. Alors la course de ralenti, c'est avant tout un exercice de gainage par excellence, mais il faut rajouter une contrainte pour que ça aille pas trop vite. Si la minute durant laquelle vous courez est paire, vous courez sur la jambe droite. Si elle est impaire, sur la jambe gauche. C'est donc ce qu'on appelle assez couramment un cloche-pied. Et enfin, si vous êtes confiné seul, il vous faudra trouver un compteur à installer face à un mur. Et Transistor vous recommande pour cela la chanson de Ricky Martin, Undo Stress, version assez similaire de notre 1, 2, 3 francophone.
Merci beaucoup, Victor. Il est 20h32 sur Transistor. Et après le sport, on va parler un peu de radio, on va faire un peu de méta en se demandant comment est-ce qu'on fait de la radio depuis chez nous.
Et aujourd'hui, je prends la place de Rémi pour vous transmettre un peu les nouvelles du monde de la radio. Alors, le monde de la radio n'est évidemment pas épargné par la débâcle Covid-19. Mais s'il est touché, aujourd'hui, on peut dire que c'est d'une manière très particulière. Bien sûr, durant les premiers jours, les premières semaines de ce confinement, on a vu l'annulation d'un certain nombre d'émissions. Tandis que Radio France fusionne ses matinales pour plus d'efficacité, d'autres émissions peinent à extraire des appartements où elles sont confinées la matière première de leur travail habituel. Comment parler des gens quand on ne peut pas parler aux gens, sans pouvoir laisser traîner son micro et sans pouvoir inviter personne sur les plateaux? Et étonnamment, ou pas, à vous de me le dire, Émilie Grangeret publie hier dans Le Monde un article au titre évocateur. La radio, compagne de la vie confinée, voit ses audiences exploser. On y lit notamment quelques phrases d'Erwan Gaucher, directeur numérique de France Inter, qui affirme qu'au moment des attentats déjà, nous avions pressenti que la radio était le média de la crise. Et en effet, la radio joue un rôle et a un rôle à jouer à la fois très important et très spécifique dans cette crise. Média d'information, la radio, c'est aussi ce qui introduit la voix d'autres, des autres, chez toi. Et sans attendre de réponse. C'est une confidence ininterrompue de personnes réelles, à la fois lointaines et tout contre l'oreille. Comme le sont en réalité la plupart des personnes que l'on aime en ces temps difficiles. Le poids de la radio s'accroît tout d'un coup, alors que ses concurrents et concurrentes de chair et d'os s'effacent. Alors que la radio se démène pour retrouver son rythme habituel, normal, de restaurer ce qui, dans la vie de beaucoup, s'apparente à un rituel rassurant, ce sont aujourd'hui ses efforts qui la rapprochent de l'auditorice, révélant par là tous les rouages de sa production. Des gestes de communication que l'on devine absents, au nombre de faux départs des animateurs et des animatrices, jusqu'à la disparition des bonnettes, la radio professionnelle se fait soudain amatrice, se rapproche tout d'un coup de ses millions d'auditorices en leur faisant, sans le vouloir, part de ses difficultés. Et d'aucuns s'en inspirent, de ce côté amateur. La radio est aussi là pour donner la parole et pour permettre de s'exprimer plus loin.
Radio Canu !
Pour un confinement joyeux, raffiné et énervé, écoute Radio Canu 102.2 et participe à faire vivre les bandes FM. Tu as monté du son, écrit une merveilleuse chanson sur le confinement ? Tu veux faire passer un message à tes potes ? Déclarer ta flamme à la voisine d'en face ? Partager tes meilleures recettes ? Envoie à la radio tous tes sons, coups de gueule, tes plus beaux poèmes ou ton dernier remix à diffusion@radiocanu.org.
On est encore là, prêt à foutre le son, que tout le monde est grand là.
La radio, ça te permet aussi de pouvoir témoigner. T'as croisé les flics et ça t'a pas fait rigoler. T'es obligé de bosser. T'as mis en place tout un réseau de solidarité dans ton quartier. Bah raconte-nous. Laisse un message sur le répondeur de la radio au 04 78 29 26 00. 04 78 29 26 00.
Quand il sort de l'appareil, par l'antenne, le message circule dans les airs sous forme d'ondes électromagnétiques.
Tous les jours, à 10h et 23h, on rediffuse vos messages. 10h et 23h, c'est l'heure du...
De nombreux répondeurs de confinement sont lancés à l'image de celui de Radio Canu. Radio France répond quotidiennement aux questions et aux angoisses des auteuristes. Guillaume Meurice laisse sa chronique à qui veut participer. À travers la radio, qui veut parle aux autres.
Au confin d'une ville, d'un immeuble, d'un salon, d'une chambre, d'un placard, une radio est née. Radio du confin.
Radio du confin.
La radio fait avec les pieds et les mains.
Pourquoi ?
Radio du confin.
Pourquoi ?
Wow ! Chronique du salon en direct du canapé. Radio du confin.
La radio fait avec les pieds et fait avec les mains.
Et d'autres en profitent donc pour lancer leur propre radio. Une sorte de retour aux radios libres, radio pirate, radio d'amateurisme, radio où tout le monde prend la parole dans une cacophonie d'ondes et de podcasts. Et donc pour finir, je vous conseille d'aller prêter l'oreille à cette radio du confin, où l'on trouve, selon leurs mots, aussi bien des petites fictions, de la musique fait maison, que des jingles et des voix qui saturent.
Merci mille fois, Martin, pour ce petit point sur la radio en temps de confinement. Donc, je ne peux que vous conseiller d'aller sur le site de Transistor pour vous nourrir également tous les podcasts qui fleurissent en ce temps de quarantaine sur le super site de notre... À 20h38, après avoir parlé radio, on va parler un peu de science avec toi, Rémi, encore ce jeudi.
Journal radiophonique amplifié de Transistor, en direct avec vous jusqu'à 21h. Attention à vos oreilles.
Air-conditioned bunker where the Norwegians have stored heritage.
Pour revenir aux origines du massif hercynien, il faut faire un bond de
90% of blue and red light is absorbed in the upper one-fifth of a spinach leaf.
Le paramètre qui va caractériser l'ordre du système va être discontinu à la fin.
Tout à fait, bonsoir Mathilde. Alors pour cet édito, j'aimerais revenir sur quelques nouvelles récentes qui, je trouve, jettent une lumière assez frappante sur les impasses dans lesquelles nous précipitent les politiques de recherche et dont nous vivons aujourd'hui les conséquences dramatiques.
Et alors l'une de ces nouvelles, ça concerne ton anus.
Bien figure-toi que oui Mathilde, et sans doute également le tien d'ailleurs, puisque j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter l'innovation médicale ultime du 21e siècle, qui a été révélée au monde dans un article paru ce lundi dans la très prestigieuse revue Nature, une équipe internationale, s'il vous plaît, de plus de 20 chercheurs d'horizons disciplinaires divers, vient de mettre au point, tenez-vous bien, une cuvette de toilette analysant votre urine et vos excréments en live pour produire un rapport de santé qui sera automatiquement envoyé sur le cloud Camoulox. La Smart Toilet, c'est son nom, identifiera ses utilisateurs, je cite, « à l'aide de leur empreinte digitale et des éléments caractéristiques de leur anoderme ». Si vous voulez en savoir plus sur cette innovation qui scrutera bientôt chacune de vos déjections, évidemment l'article sera en ligne sur la page de l'émission, je mettrai peut-être même un joli petit schéma, mais surtout, cette parution en pleine pandémie mondiale interroge, alors que le monde manque de masques, que Decathlon fournit du matériel de plongée pour en faire des respirateurs, la recherche de pointe invente des chiottes connectées. La rhétorique consistant à confondre la science avec l'innovation, qui a conquis jusqu'au sommet des États, on est bien placé pour le savoir, montre ici son effet terrible. La recherche fondamentale et désintéressée, qui aurait pu nous permettre de faire face à une crise comme celle que nous vivons, a été bien trop souvent sacrifiée au profit d'un mirage technologique qui se réduit malheureusement le plus souvent à un amoncellement de gadgets.
Oh, mais je te trouve très négatif, Rémi. Tu oublierais pas que l'innovation est le moteur de l'économie ?
Oui, alors effectivement, et c'est là le deuxième problème que j'identifie avec ces smart toilettes, en bas de l'article, on apprend qu'elles ont donné lieu au dépôt d'un brevet, lequel sera sans doute valorisé par la création d'une start-up, qui sera rachetée par Microsoft ou Amazon après 3 ans, et plus personne n'entendra parler de la cuvette connectée. Ça a l'air drôle parce qu'on parle de toilettes, mais la délégation de la recherche, y compris sur fonds publics, à des structures privées, est proprement criminelle. Qu'il s'agisse de transferts de fonds du public vers le privé, comme on sait si bien le faire en France avec notre crédit impôt recherche, mais aussi du racket organisé par les grands éditeurs scientifiques qui verrouillent l'accès à la science, et puis dans le cas de la médecine, l'autre racket de l'industrie pharmaceutique qui verrouille l'accès aux bienfaits de cette science déjà verrouillée. C'est ce que rappelle le chercheur en sciences de l'information Olivier Hertscheid dans une éclairante note de blog parue avant-hier. Face à la logique du gadget valorisable, la science doit de nouveau être tenue pour ce qu'elle est, un bien commun. Je cite: ce que cette crise illustre, démontre, documente, c'est qu'il n'y a plus aucune forme d'urgence conjoncturelle qui vaille ou soit utile. Il ne demeure plus que des urgences structurelles. Il faut structurellement refinancer l'hôpital public. Il faut structurellement rendre accessible l'ensemble des connaissances scientifiques produites dans les laboratoires de recherche publique. Il ne peut plus y avoir d'autre espace de raisonnement que celui-ci. Le nier, le minimiser ou le discuter à des fins d'atermoiement répondant à des agendas économiques ou politiques serait totalement irresponsable et irrémédiablement criminel. Fin de citation. Et ce n'est d'ailleurs pas sans un certain sens de l'ironie que les éditeurs et les pouvoirs publics ont brutalement décidé de passer en open access une énorme quantité d'articles depuis le début de la crise. Face à la situation, la recherche devrait aller au plus vite, et là, d'un coup, on l'a fait fonctionner. Sauf que, et c'est mon troisième point, tellement évident que j'ai presque honte d'en parler, la recherche se nourrit de temps, et de la traduction de ce temps en postes stables et en financement pérenne si possible. Et à ce titre, deux exemples récemment relayés par les médias sont éloquents. Tout d'abord celui d'Hubert Lode, qui Le Monde consacre un portrait il y a 2 jours. Cette star mondiale de l'étude des coronavirus dans les années 80 explique s'être éloignée de ce sujet à regret, faute de soutien des pouvoirs publics pour cette recherche aux retombées trop lointaines. Et puis c'est le chercheur marseillais Bruno Canard, qui étudie actuellement les coronavirus, et ce depuis 2003 avec l'épidémie du SRAS, qui raconte dans une tribune le désintérêt de l'État et de l'Union européenne quelques années seulement après l'épidémie, et le coup d'arrêt mis à ses recherches par les refus répétés opposés à ses demandes de financement.
Alors, pour résumer, tu identifies donc 3 écueils. D'abord, la croyance en un progrès soluble dans le gadget. Ensuite, la privatisation du savoir. Et finalement, l'urgence imposée à la recherche. C'est ça ?
Tout à fait, et on en trouve une autre illustration flagrante dans les moyens injectés par l'État dans une application de traçage des Françaises et des Français. L'application intitulée Stop Covid mobilise une équipe de l'INRIA et a suscité une levée de boucliers tant dans l'opposition parlementaire que chez les associations de défense des libertés individuelles. Et finalement, on retrouve notre cocktail de mauvaises idées dans ce gadget liberticide. Face au coronavirus, le gouvernement n'a pas trouvé mieux pour remédier à son incurie, que de déployer en urgence ce qui aurait pu être une cuvette à reconnaissance anale si l'épidémie avait été une diarrhée. Et je ne suis pas sûr que ce soit très drôle.
Merci beaucoup Rémi pour ce point sur le lien entre la science, entre le coronavirus et surtout entre le financement par le gouvernement de la recherche. Il est 20h44 sur Transistor, il est l'heure de passer à un peu de musique, faire du bien à nos oreilles.
Merci Mathilde, très cher auditeur, auditeur. L'immense chance de travailler, télétravailler ou de lire les articles. À qui donc le temps paraît long et pour qui les repères se dissoutent dans un continu infini On ne sait plus quelle heure, quel jour ou quelle heure il est. Laissez-moi vous perdre un peu plus en ressortant l'une des grandes incompréhensions des années 2000 que votre cerveau a habilement oubliée.
L'album de Paris Hilton. Oui, oui. Elle a fait un album sobrement intitulé Paris. Un album concept, selon Pitchfork, dont le concept tient en « Et si Paris Hilton faisait un album ?»
Et c'est réussi. Enfin, elle a fait un album, quoi. Qui est bien intéressant. Mais pourquoi on en parle alors ? Eh bien, car l'album vient de ressortir en vinyle.
Oui, mesdames et messieurs, la splendeur des années 2000 sur l'emblème des années 80 dans votre salon en 2020.
Vortex spatio-temporel, mais attendez un peu sur Amazon pour acquérir le micro-sillon, car c'est le moment de la musicienne.
Où je vais dire des trucs simples.
I need somebody.
Des news.
Go Go Penguin, c'est le nom du groupe de jazz. Ils teasent leurs albums avec une hâte.
Big Flo, le frère de Holly, insulte tout le technique.
Le meilleur album de l'année passée, deux frères à un an.
Frank Ocean a sorti un morceau acoustique pour nous soutenir dans notre solitude.
Et triste nouvelle, la mort de Bill Withers, l'auteur-interprète introduit au Songwriter Hall of Fame, est décédé lundi dernier suite à des problèmes de cœur. Une légende de la soul s'est éteinte. Bill, c'était 3 Grammys, 15 ans de carrière de 70 à 85 qui laissa une trace indélébile par les centaines de reprises, d'hommages et de samples. Une musique immortelle et intemporelle avec des morceaux cultes comme Just the Two of Us, Lovely Day ou Ain't No Sunshine que vous avez sûrement entendu dans de nombreux.
Oui, car la musique de Bill Withers traverse le. On retrouve un concentré de tout ce qui fait la grandeur de la soul. Des chœurs habilement placés, une rythmique plutôt lente, nous laissant apprécier les chemins que les quelques instruments vont tracer pour que le chanteur y vienne déposer ses mots dans une voix qui parle directement au cœur. Plus accessible que le jazz, la soul et Bill. Le jazz, la soul et Bill Withers a cette voix de miel qui ne peut laisser indifférent et met des notes sur nos émotions, même les plus tristes.
Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean.
Repose en paix, Bill Withers.
On continue avec les sorties ?
Ouais, parce qu'il y a du joli monde ce vendredi. Tout d'abord avec Thundercat, It Is What It Is. Thundercat est un bassiste de génie qui, en plus de nombreux albums Drunk, sortis en 2017, qui comportaient les excellents Them Change, 3AM et Walk On By en feat avec Kendrick Lamar.
Kendrick, avec qui il avait collaboré sur Two Pip Butterfly, l'un des meilleurs albums de la décennie qui vient de se terminer. Une collaboration pour laquelle Thundercat obtenait un Grammy d'ailleurs.
Après s'être fait un nom auprès de tous les médias spécialisés et s'être débarrassé d'un album un peu trop présent dans sa vie, Thundercat revient avec un cinquième album plus facile.
Oui, car si sur ses précédents essais, on sentait tout le potentiel de l'artiste à nous surprendre par des lignes musicales aussi folles que sa basse, il y avait peut-être parfois trop d'emballement pour que ses albums soient à la portée d'un public peu coutumé du genre. Il faut dire que Stephen Brunner, de son vrai nom, en a sous le capot et continue à le démontrer tout au long des 37 minutes que dure l'album, où il part chercher des références jazz, funk et rap, tout en gardant sa patte et ses doigts de folie pour composer des instrumentales d'une rondeur et d'une pertinence qui font quasi systématiquement mouche. Pour les curieux, les paroles valent souvent le détour, L'alcool n'étant pas l'unique cause de sa petite folie, il faut noter quelques perles, comme lorsqu'il demande à sa bien-aimée comment lui va son drag Dragon Ball.
Ou quand il complimente son chat.
Enfin bref, dans Thundercat, il y a du tout, et surtout du bon, et donc de quoi trouver son bonheur. Vendredi dernier, sortait aussi un album un homme derrière quatre morceaux derrière le très connu autotune de Damso et plein d'autres très bons titres. Les Twinsmatic, qui ne sont plus qu'un pour cet album, le Twinsmatic donc, a sorti Atlas, où il invite une belle palette d'artistes à s'exprimer sur ses productions. On compte parmi eux H-Kid, qui fait un retour marqué dans deux titres. Il y a aussi SCH, qui fait une jolie apparition. Dinos, 13 blocs sur la même piste que Kobalade, et d'autres artistes qu'on vous laisse découvrir.
Enfin, dans un album de producteur, on attend de sentir la patte de ce dernier, lui qui est presque systématiquement contraint de collaborer avec d'autres artistes. Et c'est réussi. L'album s'écoute comme un tout cohérent dans une sombre ambiance où des nappes obscures se prolongent d'un morceau à l'autre. Une patte que l'on sent dans les tentatives raisonnables qui s'inscrivent étonnamment bien dans la cohérence, comme le solo de guitare à la fin de la seconde piste. Un album qui commence fort, finit plus lentement, mais dont la variété d'artistes empêche tout ennui.
Surtout, on salue l'impression de synergie entre les producteurs et les invités qui ressort du produit fini. On salue aussi la capacité de Julian des Twinsmatic à insuffler des idées dans la production avec des éléments qui varient assez pour du rap au sein de chaque morceau, autant que dans la conception de l'album, si bien que l'on prend plaisir à le réécouter en entier malgré quelques temps faibles.
Dans ma tête, c'est Armageddon, y'a plein de météorites. Dans la fête, quand j'écoute ma conce, tu me fais des théories. Mais à ta bitch, sur la piste de danse, qui s'achète de la coco, ouais c'est blanc. C'est pas Chanel et j'aime sa poussière, elle cherche le coco. Quand je m'ambiance, faut fermer la fenêtre, faut pas ouvrir la porte. Si ça toque, j'espère c'est billard, j'blonde, j'abaiserai tellement fort. Mais y'a ma brune, elle est un peu timide, mais elle a pris des piges et c'est chelou. Mais dans la city main, je sors pour aller smoker et là, j'où je ne vois que des zombies. J'ai besoin de drogue et le plug me tech, j'arrive où j'ai fait tout mon possible. Et mis à mort, je veux plus de sexe et moins de tes mots, ça me rend stupide. Ce soir, dis-moi, t'es où? Donne-moi un rendez-vous.
Il giornale radiofonico dell'amplificazione.
Sur Transistor.
Il est 20h54 sur Transistor. Et merci beaucoup à tous les deux pour ce moment musical. Judith, tu vas nous faire un super tuto maintenant sur comment s'emparer de notre liberté culturelle dans ta chronique culture.
À moi,
je ne sais pas ce que vous en pensez, mais depuis le début du confinement, je sens comme un vent de liberté, grâce à la quantité incalculable de contenus culturels qui s'invitent chez nous, à commencer par les podcasts Transistor, mais aussi des institutions qui mettent leur collection de savoirs à disposition, bref, des portes virtuelles qui s'ouvrent. Et soudain, on est pris d'un sentiment de hardiesse, d'un désir d'aventure. Et si on se lançait après tout? Ce soir, petit répertoire de la culture à faire à la maison, pour éloigner de soi la tentation de faire une cure de sébum. Déjà, il y a le site Culture à domicile, qui s'est donné pour mission ce que je fais là, c'est-à-dire répertorier tous les liens disponibles pendant le temps du confinement. Épuré et très bien fait, les liens sont regroupés par rubriques, opéra, cinéma, art et musée, jeux vidéo, avec l'objectif affiché de concerner toutes les générations. Idéal donc, si vous avez des bambins chez vous qui refusent obstinément de vous suivre dans la lecture de textes.
On surfe donc agréablement entre Père Castor et le site Projet Gutenberg et ses 60 000 e-books libres de droit. Et comme il y en a aussi pour maman, on croise aussi Fabrice Lucchini qui lit ses fables de La Fontaine sur Instagram.
Bon, d'accord, mais c'est un peu fouillé tout ça. Tu n'as pas quelque chose de plus ciblé, d'un peu plus pointu à proposer ?
Si, tout à fait. Grâce au site TENK, T-E-N-K, un site de cinéma documentaire avec une sélection impressionnante de films et de courts-métrages disponibles chacun pendant 2 mois. Les programmateurs, une équipe de professionnels passionnés, nous proposent un parcours découverte avec 4 films, dont un court-métrage filmé entièrement dans un ascenseur, de quoi réfléchir sur l'exiguïté de nos retraites respectives. Documentaire, entretien, c'est une formidable manière d'éprouver des formes nouvelles et expérimentales. Beaucoup de leurs films sont inspirés du cinéma direct, ou cinéma vérité, c'est-à-dire animés d'une volonté de capter une vérité du réel, avec un équipement minimal. Idéal quand, seul chez soi, les structures familières ont un peu perdu leur sens, bien chamboulé, et on cherche à se rattacher par tous les moyens possibles au contact humain et à toute forme de vie, quelle qu'elle soit. Pour cela, l'abonnement est à 4€ par mois pour les étudiants, avec le premier mois à 1€ sans engagement.
Ok, ça a l'air chouette, mais si on n'a pas envie de passer 15 minutes dans un ascenseur et qu'on préfère s'évader dans la fiction, tu nous proposes quoi ?
Vous connaissez peut-être la Cinétech, un super site de streaming légal où les réalisateurs du monde entier proposent une sélection de films présentés aux abonnés sur un plateau d'argent à raison de 10 films par mois. Super pour remédier au syndrome de la soirée passée à regarder une étoile. Et un très bon moyen de se faire une culture cinématographique quand on est une vraie truffe en la matière. Comme moi. C'est 3€ par mois et il y a un essai gratuit pendant 7 jours.
Et si on avait plutôt prévu de se faire une expo par exemple ?
Je vous conseille de faire un tour sur le site de l'Institut Royal du Patrimoine Artistique, IRPA, car la fabuleuse exposition Van Eyck du Musée des Beaux-Arts de Gand est disponible en version numérique. On y trouve, en haute résolution, de superbes œuvres de la Renaissance flamande venues des collections du monde entier.
Et pour finir, un petit conseil spectacle ?
Alors, hormis la page Facebook de la Vidéothèque solidaire, la Comédie-Française diffuse sur sa chaîne YouTube des captations. Demain à 18h30 est programmée leur adaptation du Banquet de Platon. Disserté de l'amour depuis son canapé, je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de mieux à faire. Et puis sinon, vous pouvez aussi, eh bien, ne rien faire. Finalement, d'avoir une infinité de possibles sous la main, ça c'est pas vraiment nouveau. Ce qu'il y a de différent, c'est plutôt le sentiment absent maintenant qu'on doit absolument se cultiver d'une certaine manière. Maintenant, c'est le moment de faire usage de notre liberté culturelle et de nous reconnecter avec nos envies. Retomber en enfance en se faisant un marathon Louis de Funès, c'est possible. Ou bien se lancer dans une intrépide quête d'éclectisme, ne serait-ce que pour quelques pages, la moitié d'un film, ou pour un podcast, le temps d'une vaisselle. Ce moment de chaos réorganisateur est l'occasion de se libérer des impératifs culturels et d'enfin redéfinir nos classiques.
Merci beaucoup Judith pour cette foule de conseils qui font du bien. Il est 20h59 sur Transistor, c'est fini pour le journal radiophonique en plus. C'était le journal radiophonique amplifié en direct et avec les moyens du bord malgré la pandémie. Ce soir, depuis leur maison réservée, Martin Touzeau, Marie Douniac, Nicolas Sendé, Rémi Cerda, Victor Andrade, Nathan Viera, Marie Demichelis, Judith Kravitch, Angela Castagnada et Mathilde Picard. À la régie un peu adaptée, c'était Rémi Cerda et un peu tout le monde. Vous retrouvez votre actu amplifié dans 15 jours et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos postes de radio.